Amour, l'Orient et l'Occident, 1956, Robert Amadou, Henri Corbin, Denis de Rougemont dans une émission de Pierre Cipriot.
On se souvient des polémiques provoquées il y a 16 ans par la publication de l'ouvrage de Denis de Rougemont, L'Amour et l'Occident. Denis de Rougemont recherchait dans l'histoire de l'Occident, et particulièrement dans la tradition des cathares et de l'amour courtois, diseux à Dulcinée, la naissance du thème de l'amour impossible ou inaccessible. Donc le thème essentiel de l'amour et l'Occident et l'aspect de provocation qu'a pu prendre le livre est lié à cette idée que nous vivons sur des idées romanesques, sur des notions romanesques qui n'ont plus en ce moment la substructure morale, métaphysique, psychologique et humaine qu'elles pouvaient avoir au XIIe siècle. Eh bien, j'aimerais, Denis de Rougemont, que vous fixiez vous-même le thème de cette conversation que nous allons avoir avec Robert Amadou et Henri Corbin.
Je pense qu'il vaut mieux et qu'il est prudent d'avertir tout de suite les auditeurs de ce colloque que nous allons parler de choses extrêmement sérieuses. Nous allons parler de l'amour courtois. Nous allons même parler d'une chose aussi sublime que le sexe des anges. Nous allons parler de l'amour courtois et tâcher de montrer en quoi ce sujet est passionnant aujourd'hui dans l'état actuel de nos mœurs, et beaucoup plus qu'on ne le croit. L'amour courtois agit sur nos mœurs par le véhicule de la littérature romanesque et du cinéma.
Et sans même que nous en rendions compte.
Sans que nous nous en rendions compte. Il n'est, ces véhicules, le cinéma, la littérature romanesque, sont évidemment une dégradation du mythe primitif de l'amour courtois. On ne saurait trop insister.
J'aimerais aussi un instant que vous insistiez sur ce mot, le sens même du mot mythe. Je crois que ce mot recouvre pour vous deux choses. D'une part, des réactions affectives sournoises, sourdes en nous, cachées, secrètes, et puis toute une situation historique que vous êtes appliquée à démêler dans votre livre.
Voilà, je crois que le meilleur moyen de définir ce que j'entends par le mythe de l'amour courtois, c'est de remonter au XIIe siècle, qui est l'époque de son apparition historique. On dirait en termes plus théologiques de son épiphanie dans l'histoire.
Et c'est le moment, le seul moment où le mythe existe, parce qu'au fond, un mythe, qu'est-ce que c'est? C'est une vision d'univers. Et à cette époque, il y a une vision d'univers si bien bouclée autour de cette idée d'amour courtois que vraiment l'amour courtois peut être vécu psychologiquement et réellement par les gens qui ont participé à la culture de cette époque. Et j'aimerais que vous nous disiez pourquoi.
Bien, je ne pense pas que les hommes européens du XIIe siècle se soient très bien rendus compte de la révolution qu'ils vivaient. Mais ils nous en ont laissé une série de témoignages que je voudrais rappeler, énumérer rapidement, et dont l'ensemble décrit le mythe. Par exemple, vous vous rappelez tous la phrase de l'historien Charles Seignobos disant « L'amour est une invention du XIIe siècle ».
Je crois que cette phrase a fait rire quand il l'a prononcée à la Sorbonne.
Oui, mais maintenant on peut très bien dire à quoi cela correspond, concrètement dans l'histoire du XIIe siècle. Qu'est-ce que nous trouvons au XIIe siècle? L'apparition subite d'une forme absolument nouvelle de poésie, qui est la poésie des troubadours, de laquelle descend toute la lyrique occidentale. C'est notre origine commune, la poésie des troubadours du Languedoc. Cette poésie est tout entière consacrée au culte de la femme, c'est-à-dire produit manifeste cette révolution considérable que l'homme devient le serviteur de la dame dans tous les poèmes courtois.
Et cette dame, il faut loyalement l'aimer.
Il faut loyalement la servir, n'est-ce pas? La servir comme on sert le seigneur féodal, en position humiliée. On est à genoux devant la femme. C'est donc tout d'un coup la femme mise sur un piédestal. En même temps, nous voyons au XIIe siècle apparaître le roman de Tristan, qui lui est l'ancêtre de tous les romans qu'on a écrits depuis lors en Occident. Le roman de Tristan et Iseut. Parallèlement, nous enregistrons la première histoire vécue d'amour, dans le sens de Tristan, c'est le roman d'Héloïse et d'Abélard. Parallèlement encore, nous voyons se développer la première mystique affective, la mystique du cœur de saint Bernard de Clairvaux. Nous voyons également se développer le culte de la Vierge. Voilà encore le principe féminin. En 1140, à Lyon, les chanoines instituent la première fête de l'Immaculée Conception de la Vierge. Nous voyons également se multiplier à cette époque les couvents de femmes. Et pour les nonnes qui habitent ces couvents, nous voyons se développer une série de commentaires du Cantique des Cantiques, avec tout le symbolisme amoureux que cela peut représenter. Et enfin, je vous signale un dernier petit fait qui a l'air tout à fait indépendant de tous les autres, c'est la transformation du jeu d'échecs au XIIe siècle. Le jeu d'échecs originaire de l'Inde était dominé à l'origine par quatre rois qui commandaient chacun une armée. Et à partir du XIIe siècle, d'une manière très mystérieuse, nous voyons que la pièce principale du jeu devient la dame ou la reine.
Et alors donc, il ne suffit plus à cette époque-là de mettre la femme sur un piédestal. Il faut encore en plus étirer l'amour de l'homme pour la femme à l'infini, mettre la femme à l'infini, la projeter dans un confin tel que la passion est en quelque sorte frustrée de tout plaisir, de toute satisfaction charnelle. C'est le développement du passionnisme.
Voilà, c'est cela qu'on peut appeler l'amour-passion, n'est-ce pas, l'amour de Tristan et d'Iseu, qui trouve son accomplissement non pas dans le plaisir physique, mais dans une exaltation de plus en plus grande qui aboutit à la mort.
Et alors,
voilà,
il y a
l'amour-passion,
choses...
l'amour subi.
Il y a une chose également qui me frappe, c'est le fait que finalement, Iseu reste avec le roi Marc, et qu'en même temps, elle peut avoir une intrigue passionnelle, c'est-à-dire sans accomplissement, avec Tristan. Donc, l'amour physique est une chose qui est satisfaite à l'intérieur des lois du mariage et des normes de la moralité, et l'amour-passion en est une autre, qui, à condition de rester chaste, est légitime, et même sanctionnée par l'admiration de toutes les cours qui entendent les chants de ces troubadours.
Oui, et voilà pourquoi, parce qu'il prend une valeur mystique. À cette époque-là et dans le roman de Tristan. Et il s'agit de tout à fait autre chose que l'amour du mariage qui était purement sexuel, menant à la procréation ou social.
Et alors je crois que c'est par là que nous pourrions peut-être attacher cette littérature des troubadours avec les principes du catharisme qui, de leur côté, prohibait le mariage. J'aimerais que Robert Amadou nous donne des précisions là-dessus.
Bien, je crois qu'il est en effet extrêmement important, si l'on veut comprendre la véritable signification de l'amour courtois et de l'amour passion tel que Denis de Rougemont vient de les définir, de considérer bien sûr qu'il peut s'agir d'une constante de l'esprit humain, mais surtout d'envisager dans quelle perspective métaphysique cet amour passion ou cet amour courtois peut se situer. Car cette constante de l'esprit humain, si constante il y a, s'est explicitée en un certain nombre de doctrines, et je pense que amour courtois ou amour passion ne prennent leur véritable signification que dans un certain cadre dualiste, dans une certaine vision dualiste de l'univers.
À partir du moment où l'on parle, comme vous venez de le faire, d'un dualisme, on place le problème de l'amour à l'intérieur d'un conflit, conflit qui peut être multiple, conflit entre le sentiment et le désir, conflit entre le sentiment et le plaisir, conflit entre la chair et l'esprit. Mais sur tous ces points, j'aimerais que Henri Corbin nous apporte quelques précisions, parce que je crois que l'hérésie cathare est née en Occident en grande partie d'une sorte de nostalgie orientale. Et quelles sont, Henri Corbin, les indications que peut nous donner la métaphysique iranienne sur cette question de l'amour courtois?
Je crois sur ce point, en effet, qu'il nous faut nous référer à l'ancien Iran, l'Iran pré-islamique, l'Iran zoroastrien, lequel a connu une épopée chevaleresque avec des couples analogues aux couples de Tristan et Isolde, auxquels on les a d'ailleurs souvent comparés. Les noms se sont conservés même dans l'épopée persane de l'Iran islamique, ce sont par exemple Vamek et Hazra, Viz, Oramin et quelques autres. Je crois que c'est la même représentation symbolique configurée par l'Iran zoroastrien qui est à la source simultanément de l'éthique chevaleresque et de ce roman où s'exprime déjà une véritable religion d'amour. Cette représentation est celle de la Fravartie. Qu'est-ce que les Fravartis ? Un Fravarti est l'archétype de chaque être et de chaque entité morale, physique ou individuelle. C'est sa dimension en au-delà, sa dimension en lumière. Mais c'est en même temps une réalité très personnelle. En ce sens, il est légitime de dire que la Fravarti est l'ange de la partie céleste, de la partie visible qui lui correspond sur Terre. Le double rôle que joue la Fravarti pour nous expliquer la conjonction de l'éthique chevaleresque du zoroastrisme et de la religion d'amour, m'apparaît comme ceci. Or, Mazd, n'est pas un dieu tout-puissant. C'est peut-être ce à quoi nous succombons toujours, c'est d'associer l'idée de divinité et l'idée de toute-puissance. Ormazd est un être de beauté, de lumière, de douceur, mais les hymnes avestiques le répètent, s'il n'avait pas eu l'aide des Fravarti, il n'aurait pas pu résister à l'assaut de la contre-puissance des ténèbres, Ahriman et ses démons. Donc, les Fravarti veillent d'abord aux hauts remparts du ciel, ces entités féminines, qu'on peut également comparer aux Valkyries, ont empêché l'assaut d'Ahriman de parvenir jusqu'au monde céleste. Mais la catastrophe s'est tout de même produite dans le monde matériel, dans le monde terrestre, et c'est pourquoi Ormazd leur a demandé si elles acceptaient de descendre volontairement combattre sur Terre pour défendre, pour sauver le royaume de lumière. Et à cette offre, à cette perspective, elles ont répondu oui. Voici un premier aspect. Le second aspect est celui-ci. On va dire, eh bien, si les Fravarti, archétypes des êtres, sont descendus sur Terre combattre, nous sommes sans doute, tout moins ceux qui nous sentons solidaires de la cause d'Ormazd, nous sommes alors ces Fravarti, sans doute. Mais la structure duelle de chaque être n'est pas pour autant perdue. Il s'agit véritablement d'un être en partie double, d'une totalité où la personne est elle-même un couple, et c'est peut-être ce qui nous est le plus difficile de nous représenter justement que notre moi conscient, celui dont nous parlons, celui qui dit « je », n'épuise pas du tout la totalité de notre être. Et qu'il y a un autre être qui lui correspond, mais un être qui n'est pas simplement son reflet, son ombre, mais un être avec lequel il entre parfaitement en dialogue. C'est une situation dialogique, irrémissible. Je crois d'ailleurs que cet aspect, beaucoup de nos auteurs en Occident, romantiques ou non, l'ont partagé et l'ont compris admirablement. Je citerai par excellence Novalis, le Balzac dans Séraphita, et le merveilleux petit livre de Soloviev sur l'amour. Et c'est pourquoi, en tête de petit article que j'ai donné pour le numéro récent de la table ronde, j'avais tenu à rappeler ce hadith extraordinaire qui a cours dans le soufisme iranien et qui fait de Zoroastre, de Zarathoustra, le prophète de la religion d'amour. Le fondement de la religion d'amour est ceci, c'est justement qu'un être sache que sur Terre, il a son correspondant, il a son archétype céleste dans le monde d'Ormazd, dans le monde de lumière, et son partenaire terrestre, l'aimé terrestre, est justement le miroir qui vient de lui rappeler, dans lequel il le contemple, sans lequel cet archétype même ne lui deviendrait jamais visible.
Ce qui me paraît caractéristique dans toutes ces doctrines orientales que vous venez de nous exposer, c'est la tentation de glorifier la vie en donnant à cette vie une sorte de corps céleste.
C'est exact.
Autrement dit, à partir du moment où on met l'accent sur le sensible, ce qu'il faut, c'est donner à ce sensible tout cet étirement en transformant ce sensible en un dieu, en une divinité qu'on adore. Or, je crois que dans les doctrines cathares, telles que pouvait nous les exposer tout de suite Robert Amadou, il y a au contraire un antagonisme, une sorte de division liée à la tradition augustinienne, la division de la chair et de l'esprit, étant donné que la fornication représente le mal, une diablerie, une évacuation, comme disaient les platoniciens, tradition qui était entièrement reprise par les pères de l'Église.
Je ne suis pas sûr qu'on puisse exactement parler d'antagonisme, mais je serais plutôt tenté de voir une certaine continuité entre les doctrines iraniennes telles que viennent les exposer Henri Corbin et les doctrines gnostiques ou cathares. C'est-à-dire qu'il y a sans doute dans ces doctrines, et nous revenons là à l'amour passion, à l'amour courtois, il y a sans doute une condamnation de l'acte charnel et je dirais de la sexualité naturelle, symbolisée, illustrée par le mariage et par la procréation. Mais cette condamnation est au bénéfice d'une exaltation de l'érotisme. Le monde dualiste, le monde bon du dualisme, est un monde essentiellement érotique. C'est un monde érotique dans la conception iranienne qu'on vient de nous rappeler, c'est un monde essentiellement érotique dans la description des aventures des membres du plérôme tels que les décrivent les gnostiques.
Oui, mais alors quel sens donnez-vous à l'histoire du paradis terrestre? Au fond, le jour où Ève croque la pomme, que connaît-elle? Elle connaît le plaisir. Et à partir de ce moment-là, c'est la malédiction.
Mais je
Comment
pense...
expliquez-vous cette malédiction à cette vie charnelle, un sens bénéfique, comme vous venez de le faire?
Je pense qu'une certaine liberté sexuelle répond, d'une part, au rejet de lois que l'on considère comme mauvaises et qui sont les lois qui réglementent la sexualité, qui sont les lois du mariage, qui sont les lois de la procréation. Ces lois sont mauvaises en elles-mêmes et elles sont mauvaises par le but qu'elles atteignent, qui est précisément de mettre au monde mauvais, d'autres esprits et de les attacher au cycle des renaissances et de les attacher à un corps. Je crois qu'il y a là un aspect négatif, si vous
autrement
voulez.
Dit,
c'est une façon de se préserver. Oui. Et puis il y a également un aspect essentiellement positif. Il y a dans le culte érotique, il y a dans la liberté sexuelle manifestée par l'érotisme ou l'orgie, un certain culte de la lumière incréée, une certaine manière de participer à l'érotisme du monde, du plérôme. Il y a, je crois, ces deux aspects.
Oui, le mot érotisme, peut-être, dans l'usage que nous en faisons aujourd'hui, pourrait prêter à équivoque. Mais enfin, oui. Si vous le définissez de manière très technique, je crois que l'on peut s'entendre.
Je le définirai assez techniquement et j'aimerais assez l'employer pour bien montrer qu'il n'y a pas de distinction éros-agapé, pour bien montrer que cet amour, précisément, qui est l'amour des éons du plérôme et qui est l'amour pneumatique, que cet amour n'est pas un amour absolument pur de toute réalité charnelle. Il utilise cette réalité charnelle.
N'oubliez pas d'ailleurs chez Denis l'Areopagite, n'est-ce pas, cette phrase extraordinaire, ton amour a fondu sur moi comme celui des femmes.
C'est pourquoi le mot érotisme, peut-être, est important.
Il faudrait le purifier.
N'est-ce pas le but de toute doctrine dualiste que de purifier précisément l'érotisme?
Il s'agit de libérer en effet les parcelles de
l'humain. Est-ce que le rejet de tout mariage et de toute procréation n'est pas une purification de l'acte sexuel?
Mais alors là, il faudrait tout de même préciser la structure du mariage. Elle est loin d'être uniforme. Il y a vraiment le mariage, la conception du mariage telle qu'elle ressort d'un monde patriarcal. Il y a une structure du mariage où on peut trouver les traces, les rappels, les réminiscences d'un monde matriarcal, sur lequel d'ailleurs nous avons fort peu de données. Par exemple, dans le zoroastrisme, quelque chose que nous regarderons comme un ceste était regardé au contraire comme un acte infiniment sain, car il répétait l'union de Hormazd avec certains des archanges, des amaraspandes féminins. Par conséquent, c'est là une première précaution à prendre.
Mais est-ce qu'il ne faut pas alors là tenir compte de la division essentielle dans toute doctrine dualiste entre différentes classes d'hommes? C'est-à-dire que toute éthique dualiste, finalement, arrive évidemment à la négation même de la vie. Enfin, la mort ou l'endurat semblerait être la seule solution idéale.
Dans ce cas, je ne crois pas qu'on aille dans le mazdéisme, du moins jusqu'à ce pessimisme.
Mais je me demande si, dans la tradition chrétienne, précisément, la tentation n'est pas de sortir du monde le plus tôt possible, donc, dans la mesure où on a une justification à donner à l'amour, c'est l'au-delà de cet amour, c'est-à-dire l'enfant. Et alors, Amadou, je vous poserai cette question, enfin, en quoi consiste exactement l'hérésie du catharisme? C'est de ne pas avoir d'enfant.
Je crois qu'il faut...
Alors si c'est ça une hérésie...
Je crois qu'il faut considérer deux choses. Est-ce que vous envisagez l'aspect hérétique du catharisme, c'est-à-dire les éléments chrétiens plus ou moins déformés qu'on trouve dans le catharisme, ou est-ce que vous envisagez un aspect strictement original et d'inspiration dualiste? Je crois qu'il y a là deux choses très différentes et qui parfois finissent par se rencontrer dans le même comportement. Il y a par exemple une certaine expérience de l'apathie, qui a été souvent pratiqué par des mystiques chrétiens plus ou moins hétérodoxes, qui correspond assez à l'expérience de l'apathie des dualistes, mais qui en fait procède de points de vue tout à fait différents. C'est-à-dire que le mystique chrétien plus ou moins hétérodoxe considère qu'il peut s'exposer aux occasions de péché sans succomber au péché. L'apathie dualiste est quelque chose de très différent. On peut pécher, c'est-à-dire qu'il y a un certain état, on peut commettre un certain nombre d'actes,
mais
oui,
on aboutit toujours à une espèce
moment-là.
De volonté quand même personnelle qui reste palpitante, sans doute, qui ne reste non satisfaite, mais qui est quand même toujours liée à la personne, alors que je me demande si dans certaines formes traditionnelles de l'amour, défendues par tout le christianisme, on n'arrive pas au contraire à un reniement de l'être à lui-même, Denis de Rougemont.
Eh bien, on a essayé d'évacuer tout à l'heure l'opposition éros et agapé, et je voudrais dire deux mots pour la défendre, puisqu'elle joue dans mon livre un rôle assez considérable. N'est-ce pas? Je suis tout à fait d'accord avec Henri Corbin quand il dit, dans son article de la Table Ronde, que le péché, par excellence, serait d'aimer un être sans son aura, c'est-à-dire de ne pas aimer son ange, sa fravarti, d'aimer une femme simplement comme un corps physique accidentel, sans que cet amour aille au vrai moi de cette femme, dans lequel on retrouve soi-même son vrai moi, si j'ai bien compris, n'est-ce pas? Et alors, ça c'est un danger. Mais, est-ce qu'il n'y a pas aussi un danger dans un culte d'éros pur, d'éros spirituel, de l'éros qui monte? Le danger suivant, de passer à travers l'être que l'on aime et de ne voir que son ange, c'est-à-dire de perdre la personne.
Vous ne croyez pas que ça correspond à deux époques différentes de la vie. Il est évident que la plupart des gens ne se marieraient pas, comme le disait La Rochefoucauld s'ils n'avaient pas entendu parler de l'amour. Il est évident aussi que la plupart des mariages
ne tomberaient pas amoureux
s'ils n'avaient pas entendu parler de l'amour. D'autre part, la plupart des mariages sont liés au hasard. Il suffit d'interroger les gens pour savoir que, bien souvent, c'est lié à une rencontre. Cette rencontre, elle a été possible tout simplement parce qu'il y avait des forces latentes en eux qui...
Qui par hasard se sont rencontrés,
qui, à partir du moment où cette rencontre se produisait, les accrochaient l'un à l'autre.
Je ne sais même pas s'il ne faudrait pas retirer le mot hasard, enfin, dans un cas comme celui-là.
Ben, je voudrais d'abord pallier au danger.
Ce genre ne peuvent pas ne
jamais ce qui me frappe, c'est une espèce de disproportion dans l'amour entre le phénomène amour sur le plan physique, biologique et social, et puis les commotions qu'il provoque dans l'intelligence et dans la sensibilité. Et c'est cela qui rend possible, au fond, la plupart des mariages et qui les rend inévitables.
Vous parliez
Après quoi, on change, on passe inévitablement à l'agapé, c'est-à-dire une espèce d'accommodement avec l'homme tel qu'il est, la femme telle qu'il est, et puis les cadres du mariage et lois du mariage changent, transforment toute une effervescence en une vie réelle, pratique, active, celle que vous nous décrivez dans les derniers chapitres de votre livre, Denis de Rougemont. Ne croyez-vous pas, donc, que Eros et Agapé sont deux époques dans la vie de l'homme et de la femme ?
N'est-ce pas ? Moi, je suis persuadé que l'idéal humain serait de réintroduire l'éros dans l'agapé, c'est-à-dire de réintroduire la passion au sens le plus noble du mot, c'est-à-dire l'amour de l'ange, de l'autre, dans les liens du mariage. Mais ce que j'ai voulu souligner dans mon livre, c'est qu'aujourd'hui, où nous avons perdu le sens mystique de l'éros primitif, et où nous subissons simplement l'influence dégradée, de plus en plus dégradée, en ce qu'on appelle romance, n'est-ce pas, dans les films américains
le mythe de
Hollywood,
au fond,
c'est-à-dire simplement le plaisir de brûler, n'est-ce pas, voilà le danger.
N'est-ce pas lié à toute société évoluée ? Dans toute société évoluée, on s'efforce de susciter le plaisir et le désir par des techniques... qui accommode par exemple la cuisine de manière à provoquer l'appétit chez des estomacs qui sont fatigués, de même à provoquer le plaisir sexuel, là même où le besoin n'existe plus, simplement parce que nous vivons dans une vie confortable qui outrepasse largement nos possibilités même en fait de besoins naturels. C'est le procès de toute la civilisation que vous faites par le fait même.
C'est à provoquer le désir même par la cuisine. Vous savez que Graham Greene a préfacé un livre qui s'appelle « La table et l'amour ».
Oui. Il y a beaucoup de livres de ce genre.
Mais
alors là, n'est-ce pas, nous tombons très bas à ce moment-là. Nous tombons vraiment dans ce que Corbin appelait tout à l'heure le péché, ou appelait dans son article le péché, c'est-à-dire aimer un autre être sans aucune aura.
Alors,
ce qui n'est pas non plus un fondement sérieux pour le mariage.
Je voudrais parier au danger fictif qu'évoquait tout à l'heure Denis de Rougemont. Si la femme est promue au rang d'une fonction angélique, et que... l'amant aima en elle son propre être céleste qu'elle lui révèle, n'est-elle pas du même coup dégradée en objet ? Je dirais pardon, la femme, elle aussi, a sa fravartie. Ce qui est aimé en elle est quelque chose d'encore virtuel, quelque chose en puissance, et que mon amour doit faire éclore. Si la femme, si la beauté de la femme, qui est la théophanie par excellence, me révèle à moi mon propre ange, il faut que mon amour... lui fasse à elle aussi rencontrer son ange, et loin de faire d'elle un objet, il doit également la conduire à sa personnalité intégrale, c'est-à-dire lui faire réaliser elle aussi son entité, son archétype céleste.